Bon dimanche à tous. Le Seigneur vous bénisse. Ça va bien par ce beau dimanche ensoleillé. Alors, quand je vous disais l'autre jour que la nature entière soupire après l'avènement des fils de Dieu, eh bien, la nature soupire, c'est vrai. Et nous, on a été dans la communauté toute cette semaine vraiment attristés parce que notre chien était chez le vétérinaire et puis elle lui a trouvé des horreurs, les reins bloqués, la vessie bloquée, un kyste sur la colonne qui commence à être rongée, enfin l'horreur. Et on a prié, je fais prier un peu partout dans le monde. Et puis hier elle me téléphone, elle me dit écoutez, vous pouvez venir le rechercher, ça va. Alors voilà, on n'y peut rien comprendre à part que Dieu est le Dieu de toute sa création. Amen. Donc voilà, s'il fait ça pour, il a dit s'il fait ça pour les oiseaux, il va le faire aussi pour vous. S'il fait ça pour un chien, il peut le faire pour vous. Il faut pas douter, il faut simplement croire. Enfin, ça veut pas dire qu'on n'a pas mal au cœur, qu'on n'est pas angoissé. On était angoissé, hein, mais ce pauvre bête. Mais il est là avec nous aujourd'hui. Alors on est content. Alors on remercie Dieu. Qui vont penser peut-être que je suis un peu stupide de prier pour un animal, mais tant pis pour eux s'ils pensent ça. Voilà, on va lire 1 Corinthiens 4, 3, 4. 1 Corinthiens 4, 3, 4. C'est Paul qui parle et il dit « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. » Ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas, je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais c'est pas pour ça que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne juger de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. Alors je reviens sur mes deux prédications précédentes, les deux dimanches passés, au sujet du jugement, au sujet de juger, ce besoin que nous avons de juger. On ne peut pas dire dans la vie qu'il y a les bons et les méchants. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire qu'il y a les justes et les injustes. Parce que si on dit ça, si on pense ça, notre pouvoir de croissance se bloque. Parce qu'au fond, nous savons tous que nous sommes tous parfois bons, parfois pas trop bons, parfois justes, parfois injustes. L'apôtre Paul dit « Moi, je ne me juge même pas moi-même, je me sens coupable de rien. » Il dit ça à un moment précis, à un moment donné, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faisait jamais de bêtises. Ça veut dire que simplement, il croyait que Dieu le purifiait de toute iniquité. Le lavait, le purifiait de toute iniquité. D'accord ? C'est la même chose pour nous. Et cette histoire de se juger continuellement, personnellement, et de juger les autres, c'est vraiment la malédiction que l'humanité et que la nature entière a reçue au Jardin d'Éden. On juge bien mal la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi les religions appuient toutes plus ou moins sur un de ces points, je vous explique lesquels. Premier point, tu as une dette envers Dieu, tu as une dette envers tes parents, tu as une dette envers le monde entier. Voilà, ça c'est pour une façon de faire. Et puis une autre, tu mérites le meilleur. Tu mérites le meilleur pour la bonne et simple raison que Jésus est mort à ta place, et tu le crois, donc tu mérites d'être au bénéfice de toutes ces promesses. Au bénéfice. Est-ce que vous savez d'où vient ce mot bénéfice ? Bénéfice, ça vient du latin bene, bien, fils, fait. Bien fait. Tu mérites les bienfaits de Dieu. Ça, c'est le faux évangile de la prospérité, ça. Il y a un vrai évangile de la prospérité et il y a un faux évangile de la prospérité. Frère Osborne prêchait le vrai évangile de la prospérité. Et il a été plagié par une multitude d'escrocs qui ont fait du message de la prospérité un truc pourri. On ne mérite rien. Dieu n'est pas obligé envers nous. Parce qu'on a donné notre dîme, alors voilà, on va récolter au centuple à tous les coups. Non. Dieu n'est obligé à rien envers nous. Mais alors, si je ne mérite pas, j'ai donc une dette envers Dieu, c'est-à-dire des devoirs envers Dieu, des devoirs, et si je n'accomplis pas mes devoirs envers Dieu, c'est-à-dire si je ne fais pas sa volonté, je retombe dans le truc du mérite. Mais alors à ce moment-là, je mérite des châtiments, je mérite des punitions, mais c'est épouvantable cet évangile. C'est épouvantable, j'en veux pas. Plusieurs chrétiens tournent en rond dans ce cercle vicieux de « je mérite » ou « je mérite pas » ou « j'ai une dette envers Dieu, j'ai une dette envers tout le monde ». Et ils n'ont pas forcément analysé tout ça, mais à force de petites doses, vous savez, de semi-vérité qu'on leur injecte comme ça, alors ils en finissent par tourner en rond, plus savoir le bien, le mal. Quelle plaie manger de la connaissance du bien et du mal. Quand Jésus reviendra pour régner, nous serons réellement délivrés de cette malédiction. C'est une malédiction. La connaissance du bien et du mal. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Ça, c'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13, verset 12. Je vous lis le texte. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande chose, c'est l'amour. Alors, je serai connu comme j'ai été connu. Vous voyez ? Est-ce que vous voyez bien ce que ça signifie ? Les miroirs d'autrefois, c'était pas comme les miroirs d'aujourd'hui. C'était pas aussi fidèle, c'était un peu... Voilà, c'était pas... Surtout au temps de Jésus, c'était pas des miroirs qu'on a aujourd'hui. C'était pas aussi net. Et nous voyons pas nettement, ni soi-même, quand on se regarde dans un miroir, ni les autres, ni rien. Alors c'était obscur, c'est pas clair, c'est pas net. Et puis, frères et sœurs, quand on regarde dans un miroir, on voit toujours à l'envers. Est-ce que vous savez ça? On se voit à l'envers. Alors, des fois, ce qui semble bien, c'est mal. Et ce qui semble mal, c'est bien, parce qu'on voit l'envers. On regarde tout au moyen d'un miroir. On regarde tout à l'envers. Obscur. Et c'est pourquoi on se trompe dans nos jugements sur nous-mêmes, sur les autres, sur les circonstances. J'ai été victime de jugements, c'est des gens qui se sont trompés, je le sais parce que je me connais. Je sais très bien que ce dont ils m'accusent, c'est faux, puisque je me connais, je sais. Ils ont accusé mon épouse, je sais que c'est faux, je la connais. Et tous ceux qui la connaissent vraiment et qui ont bien observé les choses, ça revient qu'ils se sont trompés, voilà, ils se sont trompés. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont trompés. Mais bon, ça c'est autre chose. La connaissance du bien et du mal nous permet de voir, oui, mais en partie, dit l'apôtre Paul, nous sommes limités. Et lorsque Jésus viendra, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Comme nous avons été connus de qui ? Par qui ? Nous connaîtrons comme nous sommes connus de Dieu, c'est-à-dire d'une façon absolument parfaite. Alors jugez. Sachant que notre jugement est imparfait, puisque la Bible le dit, c'est prendre des risques. Ce qu'il nous faut, c'est rester en relation avec les autres, ceux qui nous jugent, par exemple. Ainsi, on peut investir dans notre soif de compréhension et non de jugement. Il faut comprendre. Si une personne ne veut pas chercher à avoir une bonne relation avec vous, c'est qu'elle a intérêt à ne pas avoir une bonne relation avec vous. Si elle ne veut pas s'expliquer en adulte, en voyant les preuves, ou alors, par exemple, si elle spiritualise tout en vous disant « Moi, de toute façon, c'est Dieu qui m'a dit que ceci, que cela », laissez tomber. Alors là, laissez tomber. Jude 22, 23. Vous allez me dire « C'est pas gentil de laisser tomber ». C'est gentil pour vous. Hein. Faut laisser tomber par amour pour vous. Jude 22, 23. Il dit, reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Et dans certains manuscrits, c'est écrit, des uns ayez pitié en faisant une différence, d'autres, ceux qui hésitent, prenez-les en pitié, et d'autres encore, réfutez ceux qui contestent. Il arrive un moment où si vraiment la relation ne peut pas être adulte, spirituelle, normale, claire, ben, vaut mieux, on s'en fout. Hein. Comme il dit pas, je m'en fous de juger par vous. Bon. Une relation ne doit pas être à sens unique. Hein. Alors pour nous chrétiens, il nous faut une communion fraternelle. Nous sommes un monde dans le monde. Jésus a dit, vous n'êtes pas de ce monde, mais on est un monde, le monde chrétien. Parce que tant qu'on ne partage pas une communion fraternelle, on a peu de chance, je dirais même pas de chance, de sortir de notre propre cercle vicieux. Et on continue de vivre dans une prison, notre moi, où ça tourne là-dedans, et on est à la fois le juge, le condamné et le geôlier. C'est amusant comme situation. La communion fraternelle authentique, elle casse cette forteresse, elle casse cette prison. Et voilà pourquoi tant de chrétiens disent « Oh, ça doit être dur de vivre en communauté ». Inconsciemment, quand ils nous disent ça, vous savez ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent « J'ai peur de me montrer tel que je suis parce que j'ai peur du jugement des autres, parce que je sais que les autres me jugent comme moi je les juge. » Inconsciemment, ils vous disent « Je suis incapable de supporter la proximité des autres. » Inconsciemment, ils ne vous disent pas ça clairement, mais c'est inconscient, ils vous disent « Je ne veux pas qu'on m'approche de trop près. » Ce serait une intrusion intolérable. Ils veulent rester dans leur forteresse de souffrance, ils en souffrent, hein, mais ils veulent rester dedans pensant que c'est moins difficile que d'avoir de l'amour fraternel. Je rigole, mais je ne devrais peut-être pas. Hein. Ils veulent rester dans cette forteresse de souffrance en étant juges d'eux-mêmes, juges des autres, prisonniers et geôliers. C'est-à-dire qu'ils s'interdisent de sortir. En fait, plus ils vieillissent seuls, plus ils développent, pour ainsi dire, une certaine forme d'autisme. J'explique. Ils sont murés avec eux-mêmes, jugeant tout, critiquant tout, sans permettre absolument à personne de voir en eux ce qui ne va pas. Ils ne veulent pas faire voir, juste l'apparence. Alléluia, ça va frère, oh oui, gloire à Jésus. Ça va bien, alléluia. veulent surtout pas dire s'il y a un problème, parce que ils souffrent seuls, ils souffrent sans les autres. Et ils accusent les autres. Si c'est pas Dieu qu'ils accusent en plus. Et ils sont étrangers aux souffrances des autres. C'est pourquoi il y a tant d'égoïsme. C'est pourquoi quand on fait des appels d'argent, par exemple, pour l'Afrique, il y a si peu de réponses. Parce que, on ne sait pas où on donne, on ne sait pas, c'est peut-être des escrocs. Oui, ils jugent tout le temps. Sans connaître, sans savoir. Il n'y a plus cet élan d'amour simple. Ils veulent toujours pas sortir de leur prison et ils finissent par vivre une souffrance contre les autres. Avant, ils vivaient une souffrance sans les autres et maintenant, ils vivent une souffrance contre les autres. Ouais, les autres me pourrissent la vie. Les autres empiètent sur mon territoire. Les autres... Ah, puis alors, leur indifférence m'exaspère. Pourtant, ils connaissent, hein, ils savent bien mon mal-être, mais ils ne bougeraient pas un petit doigt pour m'aider. Combien de fois vous avez entendu ça? Mais en fait, c'est la souffrance qui pousse à juger les autres comme s'ils étaient des indifférents. Ce ne sont pas des indifférents, c'est des ignorants. Ils ne savent pas que vous souffrez, vous ne leur montrez rien. Oh mes frères et sœurs, commencez à voir les autres, laissez les autres vous voir, laissez-les exister à vos yeux et à leurs yeux. Cessez de les caricaturer avec vos jugements. Pourquoi êtes-vous si acharnés contre eux? Parce que vous en voulez de ne pas vouloir de vraies relations avec les autres. Vous voulez du superficiel et léger. Vous voulez rien de profond. Pas de relation, pas de salut. Vous me direz, mais j'ai eu tellement de relations conflictuelles que maintenant j'ai peur. Ben, faites ce que Paul dit, aimez. Vous avez vu le texte, c'est tout de suite, aimez. Aimez. N'attendez pas d'être aimé, aimez vous-même, aimez. En vous approchant des autres, de vos frères et sœurs, de votre famille. Vous pouvez assumer alors vos blessures et vos malheurs quand vous commencez à voir comment sont les autres. Les autres, mais quand vous allez commencer à les fréquenter, vous allez voir que vous n'êtes pas un cas. Vous n'êtes pas un cas. Beaucoup de gens souffrent de votre souffrance et cela les isole, cela vous isole. Et le diable rigole, il rigole, il n'est même pas obligé de travailler, il ne fait rien. Il est là sur son transat en train de bronzer au soleil et il vous regarde, il se marre, il se fout de vous. Il y a des croyants qui n'ont presque pas de relation avec des frères et sœurs. Or, la Bible est claire, on ne peut pas aimer Dieu. On ne peut aimer Dieu que dans la mesure où on aime nos frères et sœurs. On lit 1 Jean 4, 20. 1 Jean, tiens, je crois que je l'avais pris. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Mais jusqu'à quel point il faut aimer? Jusqu'à quel point? Au point de donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Non? Oui? Et ces gens-là souffrent tout seuls. Et l'indifférence de Dieu finit par les crucifier. Parce qu'ils croient que Dieu est indifférent. Job y croyait ça. Job y croyait dur comme fer que Dieu était indifférent. Je paraphrase ce que Job dit dans Job 3, 4. Il dit, bof, qu'il reste là-haut et qu'il ne se soucie pas de moi. Dernière fois, on a choqué quelques-uns, j'ai cité Nietzsche. Aujourd'hui, j'ai cité Prévert, que j'aime beaucoup, malgré le fait qu'il blasphème pas mal, mais il a des choses, il y a une profondeur. Il était tellement désabusé dans sa solitude intérieure qu'un jour, il en est arrivé à dire « Notre Père qui es aux cieux, restez-y ». Alors, ne souffrez pas sans les autres et ne souffrez pas sans Dieu. Et surtout, ne souffrez pas contre les autres et ne souffrez pas contre Dieu. Là, il n'y a aucun bénéfice pour vous, aucun bienfait, aucune bénédiction pour vous. Quand on vit comme les premiers chrétiens, en communauté, on ne souffre pas sans les autres. On ne souffre pas contre les autres. Ça nous arrive de souffrir. Par exemple, cette semaine, on a souffert à cause du chien. Mais ça nous arrivait de souffrir à cause d'autres choses, de maladies, de toutes sortes de trucs. Mais on n'est pas seul. On ne perd plus de temps à perdre notre énergie dans l'impasse de la culpabilité ou dans l'impasse du perfectionnisme. Parce que le perfectionnisme, c'est aussi une accusation. Chez nous, à la communauté, on n'a pas peur d'être jugé, ni par Dieu, ni par les frères et sœurs. Dieu nous a déjà jugés en Jésus-Christ, il y a longtemps, avant même que nous ayons péché. Dieu, Jésus-Christ, nous a pardonnés avant même que nous soyons nés. Il nous a pardonnés à l'avance. Alors, imitons Dieu. Entre frères et sœurs, dans la communauté, et ça fait des années, nous nous pardonnons à l'avance, on se donne un pardon d'avance. Les fautes qu'on va commettre ce soir, demain ou tout à l'heure, elles sont déjà pardonnées. Ça, cette façon de faire-là, c'est la façon de Dieu, de pardonner à l'avance. Et nous devons pardonner à l'avance. Ça court-circuite le jugement. Ça court-circuite cette connaissance du bien et du mal. On n'a plus peur du jugement des autres. Si on a fait une bêtise, je prends n'importe quoi, je casse une tasse. Bon, hop, c'est moi qui l'ai cassé. On n'a plus peur du jugement. Parce qu'on sait qu'on est pardonné à l'avance. Comme Dieu nous a pardonné à l'avance. Vous dites que vous voulez aimer, ben faites comme Dieu, pardonnez à l'avance. Aimez les gens tels qu'ils sont et puis même pardonnez à l'avance. C'est ça l'amour selon Dieu. Pardonnez à l'avance. Ça coupe les pattes du jugement. Ça fout en l'air la connaissance du bien et du mal. Quand on se convertit, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne notre vieille façon de vivre. N'importe quel chrétien, méthodiste, baptiste, darbiste, catholique, gnagnaniste, pipidiste, fililiste, ou tout ce que vous voulez, va le dire. Quand on vient à Jésus, quand on se convertit, on abandonne notre vieille façon de vivre qui était fondée sur la connaissance du bien et du mal. Eh ben, on laisse tomber ça. Fini d'en vouloir au monde entier. Des fois, il y a de quoi, mais on dit non. Fini d'exclure les autres de l'île déserte sur laquelle on a fait soi-même naufrage. Hein? On est dans un autre monde, avec un autre mode de vie. Nous faisons partie du royaume de Jésus où vivent des frères et sœurs et on ne se préoccupe pas de leurs fautes ni de leurs mérites. Revenons à Job, on va lire quelque chose. Job 42, 10. J'aime bien Job. Job 42, 10. L'Éternel rétablit Job dans tout son premier état quand Job eut prié pour ses amis. L'Éternel nous rétablit dans notre premier état, dans notre état de pureté de nouveau-né,
quand on se met à prier pour les autres. Voilà comment obtenir un bénéfice, un bienfait de Dieu. Se détourner de notre misère personnelle pour aimer les souffrants, pour... c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Qu'est-ce qui est écrit dans le psaume 133 ? Qu'est-ce qui est écrit dans le psaume 133 ? Qu'est-ce qui est écrit dans le psaume 133 ? Je suis sûr que vous le savez déjà, mais je vais vous le dire quand même, parce que ça fait du bien de se le remémorer. Psaume 133. Voici qu'il est agréable et doux pour des frères de poser leur derrière dans une église une fois par semaine pour écouter un bon pasteur chanter et taper des mains. C'est ça ? Non. Voilà ce qui est écrit. Voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer, d'habiter ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, Saint-Esprit, qui descend sur la barbe d'Aaron, le signe de sa prêtrise, qui descend sur le bord de ses vêtements, sacerdotaux. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, qui donne un rafraîchissement, car c'est là où, sur le mont Hermon, non, là où des frères habitent ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, le bénéfice, le bienfait. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, virgule, la vie pour l'éternité. Où est-ce que Dieu envoie la vie pour l'éternité ? Là où des frères et sœurs demeurent ensemble, là où des frères demeurent ensemble, là où des frères et sœurs habitent ensemble, là où des frères et sœurs habitent ensemble, là où des frères et sœurs habitent ensemble, et c'est doux et c'est agréable parce qu'on ne marche plus selon la connaissance du bien et du mal. C'est pas dans ces églises où on se réunit en rang d'oignon devant un grand pasteur qui nous raconte des choses qui sont peut-être vraies, mais c'est pas là que l'Éternel envoie la bénédiction et ce n'est pas là que l'Éternel envoie la vie pour l'éternité. Ce n'est pas là où est-ce que c'est que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est là où les frères et sœurs demeurent ensemble. C'est là qu'ils donnent la vie éternelle. C'est là qu'ils donnent la vie éternelle. La vie éternelle. Priez les uns pour les autres. Et aussi pour ceux qui ne vous aiment pas. Ça nous libère de notre prison personnelle de prier pour ceux qui ne nous aiment pas. Ça nous met en lien avec les autres. Alors j'ai terminé par une révélation. Le mot « prier » en hébreu, c'est « palal ». « Palal », ça signifie « abriter »,« défendre ». Quand je prends la défense d'autrui, ça me fait exister. Je me sens inclus dans le monde des autres. Cela renforce mon sentiment d'appartenance. Et sans ce sentiment d'appartenance, la joie ne peut pas naître. C'est pas vrai. Ces chrétiens qui vivent tout seuls et qui disent qu'ils sont heureux, c'est pas vrai. Ne les croyez pas, ça n'est pas vrai. L'église, c'est pas un truc où on vit tout seul chez soi, ce n'est pas vrai. L'église, c'est la communion fraternelle. 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 Pourquoi ? Parce que c'est là que l'Éternel envoie la vie pour l'éternité et sa bénédiction. La vraie église, c'est la communion fraternelle. Plus vous avez de communion fraternelle, plus vous êtes vivant. Et même si vous pensez n'avoir rien en commun avec un ennemi, le fait de prier pour lui, vous commencez à avoir un point commun avec lui, vous avez un trait d'union, Dieu. Dieu se tient entre toi et ton ennemi, c'est un trait d'union. S'il n'en veut pas de ta bénédiction, s'il n'en veut pas, tu t'en fous, c'est pas ta vie. Mais toi, tu pries. Et ce sentiment, ça casse deux choses. Ça casse cette forme d'autisme de mon souffrir sans et de mon souffrir contre. Amen. Amen. Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs qui ont écouté cela, qu'ils se mettent à comprendre comment vaincre cette malédiction de la connaissance du bien et du mal qui nous pousse tout le temps à juger, voire à condamner. Père, je te demande de bénir chacun et chacune et de leur montrer ce qu'ils doivent faire au travers de ce que je dis, de ce que tu dis. Amen. Amen. Au revoir.